Bonsoir Julien Odoul, bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Député de Lyon, porte-parole du Rassemblement National. Et bonsoir à vous, pardon, Général Jérôme Pellistrandi, consultant défense BFM TV. Bonsoir à tous les deux. On voulait donc commencer par cette affiche de campagne du parti du Rassemblement National sur X qui fait polémique. On y voit un gendarme en uniforme, on va la voir cette affiche de dos avec la phrase suivante, je suis gendarme, le 9 juin je vote Bardella. Le tout accompagné par le logo du parti, ça a fait beaucoup réagir, notamment le patron des gendarmes. Il s'appelle Christian Rodriguez et voilà ce qu'il dit en réponse. Vous semblez ignorer que le statut militaire interdit ce genre de message. Et le moins qu'on puisse attendre, c'est que vous respectiez le gendarme et son statut dans ces périodes où son engagement peut le conduire aux pires conséquences. Ce message est inadmissible. Est-ce que vous, Julien Odoul, vous regrettez la publication de cette affiche ?
Alors déjà, ce n'est pas une affiche, c'est un visuel qui a été publié sur les réseaux sociaux. Et ensuite,
et qui fait des millions de vues.
Cette polémique est assez dérisoire. Elle est ridicule au regard du quotidien que vivent nos gendarmes sur le terrain, au regard du climat d'insécurité qui frappe nos gendarmes sur le terrain et qui devrait déjà intéresser le directeur de la gendarmerie nationale, notamment les refus d'obtempérer qui concernent nos forces de l'ordre. Il y en a un toutes les 15 minutes.
Mais là, vous changez de sujet.
Attendez, c'est très important parce que, encore une fois, je pense qu'on s'attarde sur des polémiques dérisoires et des détails, alors qu'aujourd'hui, les gendarmes attendent d'être protégés dans le cadre de leurs missions qui sont de plus en plus périlleuses compte tenu de l'ensauvagement. Et ensuite, sur le fond, le directeur de la gendarmerie, visiblement, et c'est triste de le dire, méconnaît le statut militaire. Moi, je le connais bien puisque je suis historien de formation et j'ai écrit sur le statut militaire. J'ai eu l'honneur d'écrire un ouvrage sur l'histoire du statut militaire.
Donc vous dites que le directeur de la gendarmerie nationale,
et bien sûr, rien n'interdit, rien
les règles militaires,
rien n'interdit la publication de ces visuels. Je précise que les gendarmes, comme tous les militaires de France, ont le droit de vote depuis 1945. Voilà. La grande muette célèbre, traditionnelle, a autorisé à ce que les porteurs de l'uniforme aient le droit de vote en 1945. Et rien n'interdit, aucun texte, aucune loi, qu'un parti politique s'adresse à des métiers, à des corporations, à des professions. Nous le faisons à toutes les élections, que ce soit les boulangers, que ce soit les soignants, que ce soit les artisans. Nous adressons à tous les citizens, quels qu'ils soient. Mais si, c'est exactement.
Non, vous vous adressez pas aux gendarmes. Vous faites comme si les gendarmes s'adressaient aux Français.
C'est pas la même chose. Aucune loi, aucune règle n'interdit à ce qu'un parti politique utilise ce type de visuel. Donc c'est vrai que d'essayer de faire diversion, de faire de la mousse avec rien, on voit bien et que ça dénote le peu d'arguments de certains en cette fin de campagne.
On a donc le général Jérôme Pellistrandi sur ce plateau. Que dit la loi ? Que disent les règles ?
Eh bien, contrairement à ce que vous affirmez, et malgré le rapport que vous avez commis, je rappelle que le statut général des militaires, la loi de 2005, 270, souligne l'impartialité et la non-participation des forces armées dans les débats politiques. Ouais, en plus, je suis désolé.
Ils ne participent pas, oui.
À partir du moment où vous mettez sur cette affiche le logo gendarmerie associé au logo de votre parti, vous mettez en quelque sorte, vous impliquez l'institution gendarmerie dans le débat politique. Et vous dites que vous vous préoccupez des gendarmes, il se trouve que j'ai deux fils gendarmes. J'en ai un qui est actuellement déployé en Nouvelle-Calédonie. Donc ce type de manipulation a des fins politiques. Et je rappelle qu'il y a aussi l'affiche concernant les militaires et avec...
Il y en a une autre. Je suis militaire, le 9 juin, je vote Bardella.
Tout à fait. Et en dessous.
C'est gravissime. C'est vrai que c'est l'urgence.
C'est l'urgence de l'heure.
Écoutez un peu les gendarmes sur le terrain.
Justement, vous y allez mieux que vous. J'ai des fils gendarmes déployés sur le terrain. Le général Rodriguez, que vous avez mis en cause, je le rappelle, il est dans son devoir, statut général des militaires.
Si. Il prend parti.
Non, il ne prend parti.
Bien sûr.
Non,
bien sûr que oui.
Laissez-moi terminer. Vous savez que les militaires, qu'ils soient forces armées ou gendarmerie, n'ont pas de syndicat représentatif. C'est la responsabilité du commandement. C'est dans le livre 4 du statut général des militaires que le commandement prenne la défense de l'institution. C'est exactement ce qu'a fait le général Rodriguez ce matin. Je suis désolé. Vous pouvez aller dans tous les sens. Dire, et ça, que le vote des militaires soit orienté vers tel ou tel parti, c'est leur problème. Par contre, l'instrumentalisation à la fois des gendarmes et des militaires par ces deux visuels diffusés sur les réseaux sociaux pose un vrai problème de fond sur l'instrumentalisation des forces armées. Je suis désolé de le dire.
Géraldine Vosner, quand Julien Odoul sur le plateau dit « mais tout ça c'est dérisoire, hein, on fait tout un pataquès pour rien », votre regard là-dessus ?
Mais moi, en fait, j'ai du mal à comprendre la posture, parce que effectivement, je ne sais pas si les arguments juridiques valent ou pas, il s'agit plutôt d'un tract que d'une affiche, bon, a priori, bon, on verra. Mais je ne comprends pas la posture, parce que j'y vois deux dissonances. La première dissonance, c'est que, alors certes, ils votent en masse pour vous, mais bon, les derniers sondages avant la dernière présidentielle, je crois que ça donnait 60% des policiers militaires allaient voter pour Marine Le Pen au deuxième tour. Ça en laisse quand même 40% qui ne votent pas pour vous. Et alors, de la part de Jordan Bardella, de venir faire la leçon au commandant de la gendarmerie comme un enfant, c'est voilà, première dissonance. Tweets, et la deuxième dissonance, c'est que en imposant ce langage, en fait, vous les englobant, je veux dire, comme si c'était toute l'armée, je vote pour eux, vous les mettez en danger.
Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites.
Mais c'est pas moi qui le dis, ce sont des gendarmes qui me l'ont dit.
Ce sont des gendarmes qui me l'ont dit. Voilà, le fils de ma concierge, le voisin de ma voisine a dit oui.
Excusez,
à un moment donné, est-ce qu'on peut revenir un peu sur terre? Qu'est-ce qui menace aujourd'hui les forces de l'ordre, policiers et gendarmes? Est-ce que c'est le Rassemblement National? Non, certainement pas. On leur donne, et nous souhaitons leur donner des moyens d'agir, des moyens de protection, des moyens pour les conforter dans leur mission qui sont de plus en plus périlleuses.
Un
parti politique a tout à fait le droit, encore une fois, que ça vous déplaise, que ça vous choque et que vous ayez trouvé ça comme seul argument pour essayer de contrer le Rassemblement National, c'est quand même assez pathétique, je dois le dire, parce qu'il y a d'autres urgences, il y a d'autres préoccupations, et nous, ce que nous disent, excusez-moi, mon général, mais les gendarmes sur le terrain, les militaires ou les policiers, c'est qu'ils attendent effectivement de leurs dirigeants et des responsables politiques, parce que le pouvoir militaire est assujetti au pouvoir politique, c'est des solutions, c'est améliorer encore une fois l'ordinaire.
Je rappelle, dans la loi, je vais terminer, mon général,
parce que je vous ai laissé parler, la situation aujourd'hui des forces de l'ordre est dramatique depuis 7 ans, depuis que Monsieur Macron est aux manettes, il a lâché nos policiers plusieurs fois. Suspicion de racisme en permanence.
Ils ont un open bar en permanence.
Il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien du tout.
Bien sûr.
Bon, si je peux terminer, nos policiers et nos gendarmes vivent un calvaire depuis 7 ans. Multiplication des crises, multiplication des violences, et ne vous en déplaise, ils attendent du Rassemblement National qu'ils apportent des solutions.
Est-ce que ça les met en danger déjà? Alors, première question, Géraldine Vosner.
Premièrement, je rappelle, puisque il y a aussi une affiche concernant les militaires, que votre parti n'a pas voté la loi de programmation militaire qui marquait une augmentation.
Vous n'avez pas voté pour. On n'a pas voté la loi de programmation militaire. Révisez vos fiches.
Vous êtes abstenu. Je suis désolé.
C'est faux. C'est un mensonge. Vous mettez en cause, directement, à la fois
les militaires et les gendarmes. Dans une période où, je rappelle que nous avons 27 escadrons de gendarmerie mobile déployés en Nouvelle-Calédonie. Donc, avec ce visuel sur le territoire de Nouvelle-Calédonie où tout est inflammable, il est sûr que là, vous mettez de l'huile sur le feu.
Mais quelle huile ?
Bah, écoutez, très clairement, vous dites à l'opinion publique...
On est responsable de la situation Nouvelle-Calédonie ?
En quoi ça les met en danger ?
Parce que le principe fondamental, c'est bien la neutralité de l'institution militaire, que ce soit à travers les forces armées ou la gendarmerie. Cette neutralité, elle est fondamentale. Et c'est là où vous trompez quand vous dites « on fait pour les boulangers, les agriculteurs ». Il y a un statut général des militaires qui nous protège justement de cette instrumentalisation par telle ou telle partie ou telle tendance. Donc à partir du moment où vous affichez « gendarmerie », Rassemblement National, militaire Rassemblement National, cette assimilation est contraire à toutes les lois de la République et au statut général des militaires.
C'est contraire à aucune loi.
Je voulais vous lire la réponse de Jordan Bardella au patron des gendarmes, qui là aussi fait beaucoup parler. Les gendarmes respectent le devoir de réserve dans leur fonction, contrairement à vous, qui prenez à partie publiquement un mouvement politique en pleine campagne officielle. Est-ce qu'on peut voir la réponse de Jordan Bardella? Voilà. Ils ne sont pas des sous-citoyens, ils votent beaucoup pour le RN, oui. Ce qui a l'air de vous contrarier. Est-ce que c'est pas un peu condescendant, cette réponse de Jordan Bardella, au patron de la gendarmerie?
Non, elle est juste et elle répond effectivement à l'instrumentalisation et au manque de devoir de réserve du patron de la gendarmerie. Excusez-moi, il y a une inversion totale en fait, du devoir de réserve. Il faut quand même rappeler que les militaires en France, effectivement, n'ont pas le droit d'avoir un engagement politique. Très clair. Sauf qu'ils ont le droit d'être élus conseillers municipaux.
Voire députés.
Conseillers municipaux.
Voire député, je suis désolé,
non,
il y a des...
Pas, on n'a pas d'active.
Ah bah, il demande une disponibilité.
Oui, mais d'accord, oui, ah bah, c'est très bien, pas d'active.
C'est important ce plan statutaire.
Oui, oui,
vous voulez toujours effacer cette notion du statut général des militaires qui est fondamentale.
Mais chaque militaire, chaque gendarme reste un citoyen.
Bien sûr,
un
et heureusement.
Oui, heureusement, mais voilà, mais vous semblez nier le droit de vote qui est à la disposition des militaires. Et le 9 juin, grand nombre de nos concitoyens qui portent l'uniforme de la République vont s'exprimer, et notamment en votant pour Jordan Bardella.
Et on va le voir dans un instant avec justement ce que disent les différents sondages, etc. Mais je reviens quand même à la réponse de Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National pour les Européennes, qui répond quand même de manière condescendante au patron de la gendarmerie. Vous qui n'arrêtez pas de répéter que voilà, il faut respecter l'autorité, est-ce que c'est pas un peu contradictoire de répondre de manière aussi méprisante au patron de la gendarmerie?
L'autorité politicienne du patron de la gendarmerie, qui là c'est muet finalement en militant macroniste, il faut bien le dire. Sur le terrain, effectivement...
La plupart des gendarmes sur le terrain
ne partagent pas les opinions du directeur de la gendarmerie. Ne partagent pas parce que eux ils sont sur le terrain, eux, ils subissent les choix politiques depuis 7 ans, et ils voient que rien n'a été fait, justement, pour restaurer l'autorité. Cette autorité dont on nous bassine matin, midi et soir.
Donc,
c'est pas le directeur de la gendarmerie qui va nous donner des leçons. Et là, en l'occurrence, effectivement, il est sorti de son devoir de réserve.
Frédéric Hermel.
En fait, je pense que vous êtes trompé. Ce n'est pas un tract du Rassemblement National, mais c'est un tract du Front National. Franchement, vous faites une très bonne campagne. On voit les sondages sont hallucinants en votre faveur. Vous faites une campagne parfaite. Et là, vous avez commis une bourde. Eh ouais, c'est l'erreur de la campagne. Et c'est marrant parce que ça ne correspond pas à ce nouveau Front National qui est le Rassemblement National. Dédiabolisé. Là, on a l'impression d'être retourné longtemps en arrière quand le Front National était un petit parti et qu'il fallait créer le buzz. Il fallait dire des phrases un peu comme ça. Donc, en fait, c'est un tract qui n'est pas arrivé au bon moment.
Et là, votre réaction de nier une évidence qui est quand même que vous vous appropriez un corps de métier tout entier, parce qu'il dit ça votre
personne.
Mais si, vous essentialisez, vous dites 100%.
Je suis gendarme et je vote Bardella.
On a l'impression d'entendre la France.
Vous pouvez reconnaître que vous avez fait l'erreur, c'est pas grave.
Ce n'est pas une erreur.
Pas tous en même temps.
Excusez-moi,
s'il vous plaît.
On va remettre les choses à l'endroit un petit peu. On va prendre un verre d'eau froide pour se calmer. Et on va quand même. On va resituer un petit peu les faits. Parce que là, j'ai l'impression, depuis tout à l'heure, qu'il y a un crime qui a été fait. Abominable.
Non, c'est une connerie.
C'est ni une connerie, ni un crime. Encore une fois, voilà. C'est une action de campagne qui a choqué le directeur de la gendarmerie.
Et certains gendarmes.
Et les militaires. Excusez-moi, j'envoie énormément, et j'ai énormément de contacts avec les gendarmes de ma circonscription et d'autres. Je n'ai eu aucun retour négatif de ce visuel. Bien au contraire.
On se posait la question il y a un instant. Que votent les militaires? Samis Faxi, vous avez étudié la question.
France Insoumise.
Que votent donc les gendarmes, les militaires, Samy?
Alors écoutez, la réalité, elle est un peu plus nuancée que ce qu'on l'on peut penser. D'abord, on va s'appuyer sur cette étude du CEVIPOF qui date de septembre 2022, donc après la présidentielle. C'est la plus récente dont on dispose. Le CEVIPOF qui s'est intéressé au vote de tous les fonctionnaires, et en particulier des militaires et des policiers. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que Marine Le Pen arrive en tête avec 28%, mais Emmanuel Macron n'est pas très loin derrière avec 25%. Éric Zemmour Zemmour 16%. Et alors, plus surprenant, c'est vrai, Jean-Luc Mélenchon arrive avec 11% tout de même des policiers et des militaires qui vont voter pour lui. On apprend autre chose dans cette étude. Eh bien, que 55% des policiers et des militaires estiment, je cite, qu'il n'y a pas de quoi être fier de notre système démocratique. Ce sont leurs mots. Alors, il y a les sondages, bien sûr, et sur le terrain, comment est-ce que cela se traduit? La Fondation Jaurès a mené une étude, en fait, en fonction de l'emplacement des bureaux de vote. Et notamment, ces bureaux de vote qui étaient à proximité des casernes militaires voyaient, eh bien, des scores du Rassemblement National beaucoup plus élevés que celles du département. Illustration à Versailles, justement, dans le quartier de Satory. C'est un quartier qui est occupé par une caserne de gendarmes mobiles. Et là, le constat est sans appel. Au premier tour de la présidentielle, regardez bien, Marine Le Pen recueille 30% des voix, Éric Zemmour 27,8% des voix, donc c'est presque 60% en faveur de l'extrême droite, alors qu'à l'échelle de la ville, on est à deux fois moins, Julie.
Merci beaucoup, Samy. Frédéric Hermel disait il y a un instant, c'est la bourde de la campagne, et le Rassemblement National ne veut pas le reconnaître. C'est ça? C'est l'erreur six jours des européennes?
Non, moi je ne suis pas tellement d'accord. Moi je trouve ça très raccord avec ce que propose le Rassemblement National. D'ailleurs, moi je pense qu'il faut prendre le problème un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que la question c'est à quoi pourrait servir la police et l'armée si le Rassemblement National prenait le pouvoir? Et il s'avère que dans l'architecture qu'ils imaginent pour notre société, l'ordre policier ou militaire a une importance très importante. Quand on regarde les mesures qu'ils proposent, c'est pour notamment en 2022 ce que proposait Marine Le Pen pour la France, on voit qu'ils transformeraient quasiment la France, on passerait d'un état de droit à un état quasi policier, où avec notamment cette possibilité, c'est la légitime défense d'office pour les...
La présomption de légitime défense d'office,
vous avez tout à fait raison. La présomption de légitime défense pour les policiers, en fait, ce qui veut dire, en gros, qu'ils ont le droit de tirer, et puis ensuite, admettons que quelqu'un est tué par un policier, on peut pas l'attaquer en justice, puisqu'il y a la présomption de légitime défense.
Est-ce que ça va pas un peu loin, là, Frédéric?
Le Rassemblement National, en fait, tu joues le jeu du Rassemblement National.
Monsieur Odoul,
c'est un tapis rouge pour Monsieur Odoul.
Juste revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Odoul, vous avez parlé de restaurer l'autorité.
Légitime défense. Ce que dit Pablo n'est pas faux.
Mais c'est pas permis de tuer.
Mais c'est-à-dire que.
J'ai pas dit que c'était permis de tuer.
C'est-à-dire que demain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudra dire qu'il faudra que le parquet, qui ne le fera pas, ou les avocats de la personne qui aura été blessée ou tuée, renversent la présomption de légitime défense dont bénéficient les policiers. Oui, mais donc ça veut dire que ce sera quand même mission très difficile, et que sans vidéosurveillance, par exemple, ce sera très difficile à prouver.
Mais surtout, sur ce qu'a dit M. Odoul sur la question de l'autorité, vous avez dit qu'il faut restaurer l'autorité. Et en fait, la proposition du Rassemblement National, et ça, c'est votre droit le plus absolu, même si je le combats et je ne suis pas d'accord, mais c'est de dire... Pour restaurer l'autorité, on va passer par la police et par l'armée éventuellement. Moi, je ne pense pas.
Pas
je pense que ça,
non.
C'est ce qu'on appelle
les forces de l'ordre et la justice.
Les forces de l'ordre
et la justice,
si vous voulez. Eh bien, ça, c'est une proposition, à mon sens, qui est d'ordre à établir un état policier. L'autorité, il faut une acceptation par la population des lois que vous pourriez éventuellement promulguer. Si vous voulez faire passer par la force, alors on rentre dans une...
La réponse de Julien Odoul.
On se demande.
Il y a énormément de fantasmes, de caricatures. J'ai l'impression que vous parlez d'une autre planète avec des milices armées qui vont surgir, avec un état policier qui va s'instaurer.
Non, c'est la façon dont je pense que vous utiliserez
rien
les forces
de tout
armées.
Ça. Et je tiens à rassurer, en tout cas ceux qui veulent encore être rassurés, mais vous savez, il y a des millions de Français qui croient en nos idées et qui sont tout à fait rassurés par le programme de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, parce que ça fait des années que l'autorité s'est effondrée, ça fait des années que l'insécurité est dans le quotidien des Français. Vous savez, quand vous avez 120 attaques au couteau par jour, que vous avez 1000 coups et blessures par jour, que vous avez un refus d'obtempérer toutes les 15 minutes, bah effectivement, il y a besoin d'ordre et d'autorité et de sécurité. Non. Ça, c'est vrai. Donc ça, les Français le demandent. Et le Rassemblement National, lui, le fera avec les moyens de l'État de droit. Et avec l'assentiment de la nation et du peuple français qui l'aura validé par les urnes. Donc ne vous inquiétez pas, rien de vos fantasmes n'arrivera.
J'ai une question. Pourquoi sur l'affiche concernant les militaires, vous écrivez « Contre une armée européenne qui nous ferait perdre une nouvelle part de souveraineté et contre le partage de notre dissuasion nucléaire ». Ça sort d'où, ça ?
Ça sort des projets de M. Macron.
Non.
Bah, bien
non,
sûr que si.
Non et non.
C'est bien sûr que
non,
si.
Ça veut dire que.
Non. Alors, depuis. Excusez-moi, si je peux répondre.
Ah oui.
Depuis
quand le président de la République a dit.
Il y a une petite phrase il y a quelques semaines.
Il y a eu le président Chirac avait déjà.
Je veux utiliser le président Macron, pas du président Chirac.
Non, mais c'est un débat qui est beaucoup plus ancien. Et donc, expliquez-moi pourquoi vous parlez partager la dissuasion nucléaire.
Parce qu'il y a une petite musique depuis quelques mois, quelques semaines, où le président de la République nous dit que finalement, le bouton nucléaire, il faudrait le partager à 27.
Non.
Et que notre dissuasion nucléaire, il faudrait la confier à l'Union européenne.
Non.
Comme il y avait une petite musique aussi de partager notre siège au Conseil de sécurité des Nations Unies.
Vous dites non, un dernier mot là-dessus, pourquoi?
Pourquoi? Parce que très clairement.
Vous êtes bien naïf.
Bah écoute, excusez-moi, sur la dissuasion nucléaire, on va en parler.
Vous êtes bien naïf sur le macronisme en tout cas.
Depuis le président Jacques Chirac, il a toujours été dit qu'effectivement, les intérêts vitaux de la France dépassaient le simple cadre de l'Hexagone et que, effectivement, il y avait une dimension européenne. Et donc, tous les présidents de la République, de Jacques Chirac jusqu'à Emmanuel Macron, ont toujours repris cette même problématique. Oui, nos intérêts vitaux, ils sont au niveau européen et ne se limitent pas à l'Hexagone et à la frontière sur le Rhin.
Julien Odoul. Emmanuel Macron parlera à 20h ce jeudi 6 juin sur l'Europe et les questions internationales à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement allié en Normandie. Est-ce qu'il est dans son rôle, selon vous, Emmanuel Macron ?
J'ai été choqué tout à l'heure d'entendre la porte-parole de Renaissance, Mme Seban, nous dire droit dans les yeux que tout était permis et que tout devait être mis en œuvre pour faire reculer le Rassemblement national, que c'était la priorité. Et que l'interview du chef de l'État était destinée, à quelques heures du scrutin, de lutter contre le Rassemblement national. C'est un mélange des genres que je trouve extrêmement grave. C'est véritablement la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Quand elle dit « tout doit être mis en œuvre », c'est-à-dire quoi ? Le trucage, la manipulation, la fraude, peut-être la violence.
Non, mais là, on parle de la prise de parole.
Moi, je réagis à la porte-parole de Renaissance sur cet entretien du président de la République. Et oui, on voit bien que le président de la République, qui est stupéfait de l'envolée de Jordan Bardella dans les sondages, ne sait plus à quel sein se vouer et ne sait plus quoi faire pour freiner l'ascension du Rassemblement national. Mais donc, s'il prend autant de place dans la campagne, parce que on voit bien qu'il a lancé le Premier ministre qui aujourd'hui remplace Madame Hayé dans ses interventions médiatiques, là, il se met en première ligne le président de la République, il faudrait qu'il en tire les conséquences. Donc, si sa liste est sévèrement défaite le soir du 9 juin, effectivement, il devra soit dissoudre l'Assemblée nationale, puisque la majorité politique du pays ne le soutiendra plus, soit éventuellement démissionner.
Est-ce que j'en doute, vous allez saisir l'ARCOM comme l'ont fait la France insoumise et les Républicains ?
Pour l'instant, je n'ai pas d'informations à ce sujet, mais il est vrai que ça pose de sérieuses questions sur la neutralité ou l'impartialité du chef de l'État lors de la campagne des européennes.
Il faut quand même se rappeler
des dernières campagnes européennes. Jamais un président de la République ne s'est mis en avant de la sorte, n'a fait campagne pour sa liste.
Le vote était
le
25 et 26 mai.
Non, mais je veux quand même répondre.
Là, je veux quand même. C'est le 6 juin et c'est 80 ans.
Je veux quand même répondre à Fred.
Charles Consigny.
Non, mais je veux quand même répondre à Fred parce que on n'est pas obligé d'être dupe de la manœuvre extrêmement grossière de Macron sur ce coup-là. Je veux dire, c'est comme si, d'ailleurs, il nous le disait. Concrètement, il se fout de notre gueule. Il faut dire les choses comme elles sont.
Non, vraiment pas d'accord.
Écoutez, mais savez-vous que avant François Mitterrand, les présidents envoyaient un secrétaire d'État avec autant de charisme que la personne dont on a parlé tout à l'heure pour commémorer le
c'est qu'à 20e anniversaire.
Mais guerre, Joe Biden,
vous avez raison. Mais
ne parlons pas tous en même temps, Charles.
C'est complètement innocent.
Non mais dis-moi,
mais c'est innocent. Et d'ailleurs, en quelques jours, Macron va faire 6 discours, pas 1, 6.
Mais c'est son rôle, Je suis désolé, il a été élu président de la République.
C'est son rôle à 3 jours. Fred, son interview de jeudi soir pour parler de l'international, c'est son rôle. jeudi soir alors que le vote est dimanche. Là, c'est sûr.
Non, c'est
sûr.
Oui, excuse-moi, nous avons encore des otages à Gaza. Biden est extrêmement impliqué dans le conflit au Moyen-Orient.
Bon, mais on est un petit peu...
Il y a la guerre à nos portes. Mais Fred, mais c'est un événement majeur. Le fait que Biden soit là, c'est très important.
La naïveté, tu la prends en gélule.
Non, excuse-moi. Excuse-moi. Tu sais, il y a un truc qui s'appelle la démocratie. Je respecte la démocratie.
On t'a prescrit de la naïveté.
Qu'on ait voté ou pas pour Macron, il est dans son rôle.
Mais
je suis désolé.
La marmotte, elle met le chocolat dans le
café.
Il y a un moment, c'est déraisonnable. Mais on n'est pas obligé d'être neuneux, quand même. Excusez-moi. Il y a des... Enfin, mais ils se foutent de votre gueule ouvertement.
Mais ils se foutent de votre gueule ouvertement. Tout le monde a compris la manif. Il faut vraiment.
C'est du complotisme.
Mais même un enfant, de 5 ans. Ah, c'est du complotisme. Mais c'est même du complotisme pro-russe.
Ça va faire gagner des points.
Est-ce que je vais faire gagner des
pro-russe? Attendez,
mais même un enfant de 5 ans s'en rendrait compte là. Mais Macron lui-même se marre enfin. Là, s'il nous regarde, il rigole.
Si on peut en placer simplement, franchement, est-ce que Macron pense sincèrement et les conseillers de Macron pensent sincèrement qu'en faisant cette interview solennelle, TF1 France 2 c'est solennel, le soir de la commémoration des 80 ans du débarquement, va faire gagner des points à Valérie Haye dimanche.
T'as raison, il ne le pense pas. C'est pour ça.
Vous n'y voyez aucune participation dans la campagne de Valérie Haye.
Non, il est dans.
Je suis tout à fait d'accord avec Olivier. Parce que j'ai un collègue qui sait pas bon. Il est absolument dans son rôle. Et d'ailleurs, il va parler évidemment parce qu'une question lui sera posée sur TF1 par les journalistes de la campagne européenne. Ce sera décompté du temps de parole de Valérie Haye. C'est logique. Non, il y a ce qui ne va pas. Là où je vous rejoins, il a donné un discours à la Sorbonne il y a quelques semaines, 1h48, sur l'Europe, sans déclarer. Et ça a été rétrospectivement décompté, et c'est normal. Donc oui, il y a une tentation de s'exprimer plus que de raison. Ça ressemble à Macron, on l'a bien vu. Mais là, franchement, pour le 6 juin, moi, je vous trouve un peu petit. Mais Joe Biden et le président ukrainien, le même jour, avec la guerre à nos portes, on célèbre. Et pour la première fois, la Russie n'est pas invitée. C'est aussi très symbolique.
Géraldine, il n'a pas réussi à avoir son débat avec Marine Le Pen.
Je ne l'ai jamais pensé.
Et en même temps. C'est une blague, je ne l'ai jamais pensé. Il l'a dit à la
télévision. Il savait très bien.
Il n'a pas réussi à l'avoir.
Il savait très bien que Marine Le Pen n'accepterait pas ce débat.
Si elle acceptait.
Oui, mais enfin.
Elle acceptait avec des conditions qu'il a refusées.
Fred est génial.
Après les européennes.
Emmanuel Macron a été élu 2 fois président de la République à moins de 45 ans sans aucune arrière-pensée.
Et puis respecter un peu plus les électeurs.
Non, c'est pas drôle. La naïveté en gélule te permet de dire qu'il est trop jeune
et pour lui ça ne signifie plus rien.
Julien Odoul, s'il ne s'impliquait pas, Emmanuel Macron, est-ce que vous ne lui reprocheriez pas de la même manière?
Pourquoi? Pas du tout. Il me semble qu'il n'est pas candidat. Et je le répète, aucun président de la République ne s'est impliqué de la sorte. Je rappelle qu'il a quand même mis sa tête sur des affiches de campagne.
Marine Le Pen est sur les affiches de Jordan Bardella, non?
Elle n'est pas présidente de la République, elle est colistière. Elle est sur la liste. Elle est sur la liste.
Aujourd'hui, j'ai reçu les petits papiers là. Et on voit bien la photo de Marine Le Pen.
Mais où est-ce qu'elle est sur la liste? Voilà. Emmanuel Macron.
Attendez, pas tous en même temps.
Non, mais le président, je suis un peu plus ancien que vous, puisque j'ai commencé à voter à partir de 1981. Je rappelle que le président Mitterrand s'était impliqué de façon, comme d'autres, un président sur les enjeux européens.
Non, mais donc pas à chaque élection européenne de la sorte.
Écoutez, vous êtes un peu plus jeune que moi. Oui, mais vous verrez. Excusez-moi. Puisque vous rappelez, vous dites que vous êtes historien. Les présidents de la République se sont toujours impliqués dans les affaires européennes.
Ni François Hollande, ni Jacques Chirac ne s'étaient impliqués dans les élections européennes, comme Emmanuel Macron, qui agite à chaque fois sa seule arme, parce que il faut pas avoir de naïveté. Il va essayer de faire peur aux Français, de nous dire l'Europe c'est la paix. Il va évidemment sauter sur sa chaise comme un cabri. L'Europe c'est la paix. Attention à ce qui pourrait advenir si par malheur le Rassemblement national arrivait en tête. Ce qui arrivera malgré tout envers et contre tout et envers M. Macron.
Il y a une séquence qui fait beaucoup parler, qui a fait d'ailleurs réagir Marine Le Pen, qui ensuite a effacé son tweet. D'ailleurs, vous allez nous expliquer un peu pourquoi. Samy Sfaxi nous rejoint sur ce plateau. Cette séquence, c'est donc le Premier ministre, Gabriel Attal, qui a fait une intervention surprise, sans prévenir personne, sur le service public pour encourager sa candidate Valérie Ayé. Racontez-nous ce qui s'est passé.
Oui, Julie, alors c'est vrai qu'il faut le dire. Depuis le début de cette campagne européenne, le président de la République et le Premier ministre s'investissent énormément. Le président de la République, vous l'avez rappelé, avec ce discours à la Sorbonne et ce fameux débat de Gabriel Attal face à Jordan Bardella chez nos confrères de France 2 qui a fait beaucoup de bruit. Mais là, ce matin, on a franchi quand même un cap avec ce coup d'éclat de Gabriel Attal qui s'est carrément incrusté lors de l'interview de Valérie Ayé. C'était ce matin chez nos confrères de France Info. Regardez la séquence.
C'est bien, Valérie.
Je crois que je le connais un peu, oui.
C'est le Premier ministre de la France, Gabriel Attal. Salut,
Valérie. Monsieur le Premier ministre.
Bonjour.
Salut, Gabriel.
Ça va, tu veux bien ? Ouais, très bien. Bonjour, vous allez bien ?
Bonjour, ça va ?
Bonjour, je suis désolé, je fais irruption sur la scène.
Monsieur le Premier ministre.
J'étais en interview juste au-dessus à l'instant.
C'est complètement imprévu.
On m'a dit que Valérie était là, et donc je suis venu d'abord pour voir Valérie. On passe beaucoup de temps ensemble en ce moment.
Vous êtes un peu inséparables, oui.
Alors forcément, les oppositions se sont immédiatement positionnées en expliquant justement, en dénonçant cette attitude. Ça devient gênant, en tout cas ces hommes qui parlent à la place de la femme tête de liste. Ça, c'est Sandrine Rousseau qui s'est exprimée. Également Marie Toussaint, tête de liste Europe Écologie Les Verts. Alors elle y va de façon un peu plus franche. Je veux dire mon soutien à Valérie Ayé qui a eu ce courage. Je regrette ce qui s'est passé et les femmes ne sont pas des paillassons. Voilà pour Marie Toussaint. Et on a posé la question cet après-midi à Valérie Ayé, qui était aux côtés d'Édouard Philippe au Havre. Écoutez Valérie Ayé et Édouard Philippe sur cette question.
Valérie Ayé n'a aucun conseil à me demander et n'a aucune légitimité à gagner avec moi. Elle est chef de file, elle connaît ses dossiers, elle a beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Franchement, l'idée qu'elle vienne me demander des conseils est ridicule.
C'est une chance pour moi d'avoir le Premier ministre à mes côtés, le Président de la République dans les formats qu'il souhaitera et qu'il jugera les plus utiles. En tout cas, je relève, j'ai beaucoup été interrogée sur la fameuse interview de jeudi. Qui s'étonne que le Président de la République, au soir d'un événement mondial, que le Président de la République prenne la parole ?
Alors, il y a donc des réactions, notamment Marine Le Pen. Autant pour moi, je pensais qu'elle l'avait effacé, mais effectivement, j'ai revérifié, il y est bien. Mes excuses, voilà ce qu'elle dit. Madame Ayé est une adversaire politique, mais la manière dont le Premier ministre l'a humiliée en s'invitant dans une de ses émissions est une véritable honte. Jamais il ne se serait permis cela si le candidat avait été un homme. Pour vous, c'est clairement sexiste ce qui s'est passé ?
Ah oui, c'est une humiliation extrêmement gênante. La séquence est très gênante. Pour Madame Ayé, effectivement, on a des divergences politiques profondes, par définition. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu d'empathie pour elle parce qu'elle a eu au moins le courage de se porter candidate tête de liste alors que personne ne voulait y aller, des ministres chevronnés n'avaient pas envie de se mouiller. Et elle est humiliée, lâchée par son propre camp en permanence qui montre qu'elle a toujours besoin soit d'un ventriloque, soit d'un tuteur. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez terrible de voir l'arrivée de Gabriel Attal lui voler la vedette en lui disant au bas mot, finalement, t'es pas assez doué, ma grande, c'est moi qui vais parler, parce que moi, je sais de quoi je parle. Donc, c'est vrai que c'est terrible comme séquence, et Marine Le Pen a tout à fait raison. Si ça avait été Bruno Le Maire, tête de liste, à la place de Madame Ayé, et que Bruno Le Maire organisait cette conférence, cette émission du service public, jamais Gabriel Attal lui aurait pris la place. Jamais. Donc, parce que c'est une femme, et parce qu'elle est jugée incompétente par son propre camp. Et c'est ça qui est terrible. Elle est jugée incompétente et elle est montrée aux yeux des Français comme incompétente par son propre camp.
Non, vous exagérez. Elle n'est pas du tout jugée incompétente. Elle est jugée...
Bien sûr.
Peu médiatique.
Bien sûr. Non, mais c'est
parce qu'elle est compétente.
Non, mais derrière, il y a cette petite idée qui est donnée. Et je trouve ça terrible.
Ça en dit long
sur le mépris qu'a la Macronie pour les femmes en politique.
Est-ce qu'il n'est pas normal que Gabriel Attal, Premier ministre, effectivement, vienne encourager sa candidate qui souffre d'un déficit de notoriété, c'est sûr.
Je vais vous dire, tout à l'heure, je trouvais ça profondément sexiste, mais je n'avais pas entendu Valérie Ayé dire ce qu'elle avait à dire.
Alors, peut-être qu'on peut lire ce qu'a dit Valérie Ayé. Elle dit la chose suivante. Je note que nous entendons moins nos adversaires s'indigner quand Marine Le Pen conclut tous les meetings de Jordan Bardella et fait des matinales à sa place. L'union de notre majorité présidentielle pour défendre le seul vrai projet pour l'Europe et notre force. On continue et elle poursuit. Instrumentaliser la cause féministe ne fait que lui nuire. La véritable sexisme, c'est de penser à ma place. Parce que je suis une femme, je serai forcément invisibilisée par la présence d'un homme. Et elle se dit fière que Gabriel Attal s'engage à ses côtés dans la campagne.
En fait, c'est pas tout à fait faux.
Pour le c'est même très vrai,
de façon nuancée. Mais tout à l'heure, je disais que c'était sexiste, mais en fait, c'est un peu la double peine. C'est-à-dire que je considère qu'elle a été victime d'une interruption de son interview qui était sexiste. Et derrière, je lui dis, alors même qu'elle dit que c'est pas sexiste, je lui dis non, mais écoute, ma bonne femme, en fait, c'est sexiste, t'as rien compris. Donc, je pense que j'essaie de m'astreindre en fait à cette position.
C'est
non.
Dans tête,
ah, écoutez, non, c'est pas dit dans ma tête. Je m'auto-flagelle. Pas. En fait, il y a une femme qui est concernée, en fait, en l'occurrence, par une situation que je considère comme étant sexiste. En fait, je l'écoute, elle. Et si elle me dit non, c'est pas sexiste, si elle considère qu'elle a besoin de Gabriel Attal, elle a envie d'aller voir Édouard Philippe,
elle a envie
d'Emmanuel
aussi.
Macron. Comment
elle Non, mais c'est pas. Le choix aussi.
Mais ça, on le sait pas, en fait.
Oui,
et
mais
ça,
bon.
Ça, c'est du fantasme. Et c'est imaginer, en fait, qu'elle n'a pas le choix. C'est imaginer qu'elle est incompétente, alors même que moi, je pense qu'elle est très compétente. Peut-être qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Et que lorsqu'elle convoque Gabriel Attal, lorsqu'il y a Emmanuel Macron qui prend la parole ou qu'elle va voir Édouard Philippe, ça rentre dans une stratégie pour que le 9 juin, elle fasse le meilleur score possible.
Mais simplement, il faut voir toute la séquence et voir qu'elle était très mal à l'aise après. Elle avait perdu le fil de son discours.
Ça l'a déstabilisé.
Et franchement, c'était une mauvaise surprise. Ouais. Voilà, vous vous souvenez, vous êtes très jeune, mais il y avait surprise à la télé quand on était petit.
Et ben voilà,
regarde le personnage mystère qui arrive, et ça l'a totalement déstabilisé. Et ça n'a pas été un cadeau. Je le disais tout à l'heure, c'est une séquence TikTok ratée, et ça portait préjudice à cette candidate.
Moi, j'adore la théorie selon laquelle Valérie Ayé est victime de double sexisme. C'est pas seulement victime de sexisme, c'est un double sexisme à son corps défendant. C'est ça qui est génial aussi, c'est que elle-même ne s'en rend pas compte, mais elle est deux fois victime de sexisme. Franchement, je pense que l'époque est folle avec ça et qu'on surréagit à cette séquence, qu'on peut trouver gênante ou pas, adaptée ou pas.
Non, mais c'est pas on surréagit, c'est le message que ça renvoie aux électeurs. C'est simplement ça qui est intéressant. On est quand même dans
Vous
la
avez
dernière ligne droite de la
Royal,
campagne.
C'est Ségolène Royal sur cette excellente chaîne de télévision qui est BFM TV. Elle a dit tout à l'heure. Objectivement. Elle a dit tout à l'heure qu'elle aurait bien aimé que des hommes viennent la soutenir dans sa campagne de 2007, dans laquelle elle s'était sentie bien seule.
Je suis pas sûr. Femmes, hein, parce qu'il y a une
Je pense que ça dessert simplement le propos général par l'image que ça renvoie. Il n'y a pas simplement le fait d'interrompre sa candidate sans prévenir. Il y a aussi ce fait qui est, à mon sens, encore plus dérangeant de s'inviter dans une émission dans laquelle on n'est pas invité par le seul fait du prince. Alors qu'on est dans un débat depuis des semaines sur la surintervention du président de la République. Vrai ou pas, ça imprègne le débat public.
Mais si
voilà, en plein débat sur l'indépendance du service public.
On n'aurait pas parlé de cette émission.
Je dis c'est gênant et ça va heurter, c'est certain, une partie de l'électorat. Ça va les heurter. Était-ce nécessaire pour 2 minutes 30 de débat volé?
Mais non, vous êtes dans la surcritique.
C'est une mauvaise com', c'est tout.
Souvenez-vous.
C'est pas grave.
De Drucker. Moi, je trouve que ça faisait un peu Drucker quand il faisait venir
Marcel Béliveau sur le canapé
rouge. Sur le canapé rouge, c'était les grandes heures où je me souviens de Lagardère débarquant sur le canapé rouge et ayant un échange objectif avec El Kabbach qui expliquait que Lagardère était extraordinaire. Souvenez-vous de cet échange quand Sarkozy était chez Drucker et qu'il faisait. Moi, je trouve que c'était pas. Il n'y a pas lieu de surréagir comme ça.
Par contre,
petite séquence qui était
Pablo, un exemple
sympa. Non,
le double sexisme.
Je voudrais vous montrer une séquence derrière.
Par rapport à Pablo, c'est vrai qu'on a quand même le sentiment là que c'est la Macronie à tous les étages de Radio France, du service public. C'est-à-dire, j'étais au-dessus, je descends puisque vous êtes là. Ça aussi, ça lance un message qui n'est pas très positif.
Bon, pour parler de la présence quand même aussi de Marine Le Pen, on parlait de la présence sur les tracts de campagne. Alors vous dites oui, elle est sur la liste, mais
oui, sur la liste.
L'objectif c'est aussi parce que c'est Marine Le Pen et qu'on la met et qu'on se dit que peut-être que ça peut aussi porter Jordan Bardella et les candidats du Rassemblement National. Elle est très présente, Marine Le Pen. Il y a une séquence qui a circulé, Jordan Bardella l'a partagée sur TikTok. C'est juste avant le meeting ce week-end, des répétitions. Écoutez ce petit échange entre Marine Le Pen, Laure Lavalette et Jordan Bardella.
Je suis très gêné à l'idée d'exclamer mon truc devant une salle vide.
On est là.
Ok.
Jordan, est-ce que tu veux m'épouser?
Il nous reste 7 jours.
Elle est très présente aussi, Marine Le Pen, dans la campagne de Jordan Bardella.
Cette séquence est très amusante. Mmh.
Voilà, c'est pas la même ambiance.
Non, oui, c'est pas la même ambiance, effectivement.
Deux salles, deux ambiances. Voilà.
D'un côté, effectivement, il y a de la légèreté, des sourires et puis une bonne humeur. De l'autre, c'est un peu plus tendu. Mais Marine Le Pen, contrairement à Gabriel Attal et Emmanuel Macron, elle est candidate sur la liste. Donc, il est normal qu'elle s'implique dans la campagne.
80.
Et alors, d'ailleurs, ce qui est assez cocasse, c'est que quand elle ne s'implique...
C'est un peu facile de nous dire ça.
C'est un fait. Quand elle ne s'impliquait pas dans la campagne, vous étiez en train de décortiquer, mais pourquoi elle n'est pas là? Pourquoi on la voit peu? Ah, mais parce qu'il y a des dissensions avec Jordan, ça ne marche pas. Là, elle s'implique dans la campagne normalement, puisque je rappelle qu'elle est colistière et en même temps qu'elle est présidente du groupe à l'Assemblée nationale et qu'elle a une légitimité politique. Et accessoirement, elle a été candidate à l'élection présidentielle et elle le sera très certainement en 2027. Donc, il est tout à fait normal qu'elle soit présente au meeting, mais elle ne viendra jamais, contrairement à Gabriel Attal, voler la vedette lors d'une émission à Jordan Bardella.
S'il y a une victoire éclatante de Jordan Bardella aux européennes, est-ce que potentiellement il pourrait venir concurrencer Marine Le Pen pour 2027?
Les choses sont très claires chez nous. En fait, il n'y a pas de concurrence sur les élections présidentielles. Marine Le Pen se prépare à être chef de l'État et donc à l'élection présidentielle. Jordan Bardella se prépare à être Premier ministre de Marine Le Pen en cas de victoire. Donc, tout est clair, en fait. Nous, on n'a pas besoin ni de primaire, ni de petites tambouilles internes. Donc, ceux qui aimeraient trouver des dissensions, des divisions, une concurrence fantasmée, etc., seront extrêmement déçus.
Ce que vous dites n'est pas tout à fait exact. Mais je pense il ne nous le dira pas ce soir, et c'est normal, mais la campagne, elle est quand même très intéressante là, pour Jordan Bardella, parce que, alors certes, il va faire un très beau score, mais il aura aussi révélé beaucoup de faiblesses qui, je pense, sont regardées dans une partie de votre état-major. On parlait encore de la bourde d'aujourd'hui, c'est une bourde d'enfance, hein, c'est un truc de gamin qui n'aurait pas dû arriver, et qui est de nature à jeter le doute, parce qu'elle a quand même annoncé qu'il ferait son Premier ministre en cas d'élection. Oui, et on a vu beaucoup de faiblesses sur le fond des dossiers, de travail, de... Voilà, on voit qu'il n'est pas prêt, il n'est pas encore prêt, et... ça n'aura pas d'incidence sur ce scrutin-là, mais pour la suite, je pense que ça en aura.
Je pense que le ticket Marine-Jordan est au contraire très rassurant et séduit grand nombre de Français qui voient justement un duo extrêmement complémentaire et, contrairement à ce que vous dites, extrêmement travailleur et sérieux.
Mais il y a une deuxième chose, c'est que pour être Premier ministre, il faut une majorité à l'Assemblée nationale. Et donc pour ça, je pense que si jamais vous voulez avoir le poste de Premier ministre et avoir une majorité à l'Assemblée nationale, il va falloir que vous fassiez comme dans tous les autres pays du monde où l'extrême droite est arrivée au pouvoir, c'est-à-dire une alliance avec la droite. C'est ce qui s'est passé avec Bolsonaro, c'est ce qui s'est passé avec Trump aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé avec, en Italie. Et donc, à partir du moment où vous faites une alliance, vous êtes obligé de leur donner des gages, de leur donner éventuellement des postes, voire un poste de Premier ministre, si c'est eux qui vous permettent de pouvoir constituer un gouvernement.
Alors déjà,
vous êtes en train d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale.
Mais on n'y est pas, c'est loin.
Je tiens à vous rappeler, parce que c'est important, que le Rassemblement national n'est pas d'extrême droite. Voilà, que vous soyez en désaccord, c'est votre droit le plus strict, mais on n'est pas d'extrême droite. Et ensuite, nous, le Rassemblement, nous l'effectuons depuis des années, on va continuer à le faire, avec des gens qui viennent de la droite, avec des gens qui viennent de la gauche. On a eu Thierry Mariani, on a eu Jean-Paul Garraud, on en aura d'autres, on a eu Andrea Cotarac qui venait de la gauche. Donc ce Rassemblement, il va continuer après les européennes, dans la perspective de la présidentielle, pour rassembler très largement 50% des Français.
Alors justement, puisqu'on parle de rassemblement, une photo à vous montrer, Marion Maréchal, qui a rencontré Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien. Elle n'est pas très haut dans les sondages, elle est à peu près à 5% des intentions de vote, mais elle a des contacts. Est-ce qu'elle vous manque, Marion Maréchal?
Personnellement ou politiquement?
Politiquement, plutôt.
Non.
Mais personnellement, racontez-nous.
Marion a fait son choix. Elle a fait le choix de quitter le Rassemblement national. Elle avait fait le choix aussi de ne pas se représenter aux législatives alors qu'elle avait une circonscription dans le Vaucluse. C'est un choix qui l'a amené à soutenir Éric Zemmour à la dernière présidentielle.
Et vous le regrettez ?
Non, pas du tout, au contraire. Non, non, c'est son choix. Nous, on travaille à rassembler les Français. Nous ne sommes pas dans la même catégorie. Marion Maréchal, elle, est à 5% des sondages. Nous, on est à plus de 30%. Nous, nous disons juste à nos électeurs, et à tous les électeurs, et aux électeurs de Reconquête. L'idée du 9 juin, c'est d'infliger la sanction la plus sévère à Emmanuel Macron. Donc, d'avoir le score le plus haut. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de dispersion, pas d'abstention, bien évidemment, mais pas se disperser sur des listes qui auront aucune incidence. Donc, ça ne sert à rien de voter pour Marion Maréchal. Il vaut mieux voter encore plus pour Jordan Bardella pour avoir une victoire encore plus éclatante et une sanction encore plus forte pour Emmanuel Macron.
Et personnellement, alors, elle vous manque ?
Non.
Non plus.
Mais la porte est ouverte quand même, si elle veut revenir.
Mais je ne pense pas qu'elle veuille revenir, sinon elle l'aurait manifesté.
C'est pas ce qu'on raconte.
Je ne sais pas qui raconte quoi, mais en tout cas, nous, on est dans d'autres perspectives. Elle a fait son choix, qu'elle le regrette ou non, c'est ainsi. Et l'avenir, c'est pas des petites personnes ou des boutiques. L'avenir, c'est de rassembler des millions de Français qui croient en nos idées et qui aspirent au changement.
Merci beaucoup. Merci Julien Audoul d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM TV.